Pantagruel, Lucas Torrent.
Bonjour à tous. L'océan rugit sous des falaises bretonnes, l'écume glougloute et le ressac terrible fait rebondir sa clameur sur les parois de pierre. Septembre, l'air est piquant de fraîcheur, l'algue brune danse dans les vagues, le gris du ciel déteint sur le bleu acier de l'océan. Il y a de la moule, du bigorneau, du goéland qui plane, ça en jette avec de l'embrun et tout et tout. Soudain, au bout de la plage, majestueux, voici un cheval, robe grise, tache claire sur le museau, puissant, il galope avec sur son dos une jeune femme rousse qui monte à cru. Jeune femme en robe de chambre blanche, à moins que ça ne soit une tunique. L'animal va dans les vagues qui se cassent sur la grève. C'est incroyable, c'est magique, on dirait un poster dans une chambre d'adolescente. C'est toute la beauté de l'animal, en osmose avec l'humain. L'humain aime son cheval, le cheval aime bien l'humain, mais il aime aussi brouter. Et du coup, l'humain a inventé depuis la nuit des temps des chevaux d'exception. Ce sont eux qui habitent notre classement du jour, les 5 chevaux mythiques les plus pratiques dans la vie quotidienne. Oui, pour les classer, c'est les chevaux mythologiques, plutôt que de prendre les plus connus ou les plus mythiques. Nous avons choisi de prendre 5 chevaux mythologiques et de voir ceux qui seraient le plus commodes pour aller faire ses courses, pour réussir dans la vie professionnelle et pour faire peur aux gens que l'on n'aime pas. Alors qui de Bucéphale ou de Pégase est en première place? Est-ce que les poneys mythiques ça existe? Pourquoi est-ce que ce sont les filles qui aiment le plus les chevaux, tandis que les garçons préfèrent les loutres? Est-ce que techniquement un centaure pourrait monter à cheval? Des questions de l'équitation, des réponses et du crin, c'est Pantagruel, bienvenue à tous.
Même à 20 bornes de bandole, c'est la déprime sans parabole. À la campagne, t'entends des cloches, ça fait tout drôle sans Macintosh. En plein centre-ville, danger, y a du danger sans la 3G. On ne sait plus s'ennuyer. 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 Il s'est retiré dans le Berry en oubliant son Blackberry. Elle prend des cours de cha-cha-cha avec sa souris ri-ri-ri. Ce soir c'est moi qui sors chérie. Comme ça je promène un peu l'ordi. On ne sait plus s'ennuyer. 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 Que serions-nous sans connexion? À part des gens pleins de questions. On vit maintenant tous sans réseau. Comme des animaux dans un zoo. On est tout mou sans disque dur, on est tout nu dans la nature. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. T'entends plus les oiseaux chanter, c'est pas compatible USB. Avant la vie était basique, avant la vie était physique. Dans le fond d'écran t'as un soleil, mais c'est pas tout à fait pareil. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer.
Thomas Dutronc sur la première, on ne sait plus s'ennuyer. Vous écoutez Pantagruel, aujourd'hui les 5 chevaux mythiques et mythologiques, les plus pratiques dans la vie de tous les jours. Nous avons pris 5 chevaux qui sont issus de croyances, donc mythologiques, d'autour du monde. On essayait de varier les sources culturelles parce que partout se sont trouvés des chevaux broutant avec noblesse le foin nourricier. Eh bien, l'humain a inventé des histoires de chevaux mythiques extraordinaires. Et donc l'idée de vous donner les 5 chevaux mythiques les plus incroyables, passionnants, émouvants, mais aussi qui seraient le plus pratique pour aller faire les courses. Voilà, oui, on vous l'assure, c'est une bonne idée. Et c'est pas du tout une idée à 2 balles du vendredi, absolument pas. Il faut juste laisser un peu d'ouverture mentale, hein, laisser libre cours à l'adolescente amoureuse de chevaux qui sommeille en vous. Et puis vous verrez, ce sera un très beau classement.
1, 2, 3, 4, 5.
Entertainment. 5.
Enchantment.
En 5e position, les Kelpies. Les Kelpies sont des esprits maléfiques qui appartiennent au folklore écossais, de forme généralement équine. Ces esprits hantent les rivières et les sources. Ils apparaissent le plus souvent sous la forme d'un poney docile et dressé pour attirer les enfants. Malheur à qui monte sur leur dos car on s'y retrouve collé sans pouvoir en descendre. Les kelpies entraînent alors leurs victimes sous l'eau pour les dévorer. Ces créatures peuvent prévoir les orages et déclencher des inondations. Il existe cependant une manière de les dompter en arrivant à se saisir de leur bride. Celui qui arrive pourra alors se faire obéir par les kelpies et les utiliser comme monture. Une monture qui a la force de 10 chevaux et une endurance hors du commun. 2 statues de 30 mètres de haut qu'on trouve en Écosse qui représentent 2 têtes de chevaux ont été baptisées Kelpies et de nombreuses autres légendes de chevaux aquatiques maléfiques existent dans le Royaume-Uni et en Irlande. C'est notre numéro 5 dans notre classement sur les chevaux mythologiques les plus pratiques. En 5e place parce que oui, ils ont l'endurance d'un marathonien sous Ritaline qui vient de manger sa petite barre de céréales pleine de nougat. Oui, ils ont la force d'un tractopelle biélorusse des années 80, mais il y a un mais, hein, à la base, les Kelpies, c'est un esprit malveillant dont le passe-temps est de noyer les petites filles, pas seulement les noyer et les dévorer, et en plus qui se transforme en poney docile pour attirer ses victimes. Attendez, nous personnellement on n'a jamais rien entendu d'aussi maléfique de toute notre vie, hein, se transformer en poney pour attirer les gens. C'est donc en 5e position, mais on devait parler des Kelpies, parce que les chevaux mythologiques ou magiques ne sont pas toujours de bons gars qui vous prennent sur le dos sans sourciller de la crinière et qui hennissent de plaisir en vous transportant. Il y a aussi du cheval teigneux ou du cheval monstrueux, comme dans les mythes philippins par exemple. Il y a un démon mi-homme, mi-cheval qui vit dans la forêt. Il s'appelle le Tikbaland. Il perd les voyageurs et quand le cœur lui en dit, il les dévore. Et son cœur lui en dit souvent. Et là encore, pas de problème, vous passez une bride autour de ce monstre avant qu'il ne vous mange et vous trouvez sur son corps 3 poils d'or que vous arrachez. Et là, il vous servira jusqu'à sa mort.
Qu'un de ces 4, qu'un de ces jours, la folie.
Avant de monter à cheval, il faut maîtriser 3 piliers. L'équilibre, le rythme et la coordination. Et le quatrième.
Le quatrième? Quel quatrième?
En 4e position, le cheval mythique Cholima. Ce cheval fait partie de la mythologie coréenne, mais on trouve des chevaux mythiques très semblables dans toute l'Asie, de la Turquie au Japon. Cholima, dont le nom signifie « cheval mille lieues », peut parcourir cette distance en un seul jour. Selon Wikipédia, cela correspond à environ 400 km. Ce cheval est ailé, mais il ne peut pas voler. Il est extraordinairement rapide. Par contre, il n'accepte d'être monté par aucun mortel. C'est aujourd'hui le symbole de la Corée du Nord et le surnom de l'équipe nationale de foot de la Corée du Nord. On trouve un cheval mythique similaire dans la culture d'Asie centrale, comme par exemple il est connu en turc sous le nom de Tulpar, et dans certaines versions du mythe, ce cheval ailé peut bien voler et il accepte même de porter sur son dos ceux qui le méritent. Cholima ou Kolima, c'est notre numéro 4, c'est un cheval ailé qui ne peut pas voler. Et c'est, selon la légende, le cheval le plus rapide de tous les temps. Il fait 1000 lieues en un jour. Donc on vous l'a dit, on a vu sur internet que 1000 lieues, ça ferait 400 km. Donc 400 km en un jour, on va être sympa, on va dire que ça fait 6 heures de galop. Donc 400 divisé par 6, ça nous donne, en arrondissant, du 67 km/h. Et donc, Cholima, le cheval qui refuse de se laisser monter tellement il est rapide, hein, le cheval le plus rapide de tous les temps, fait du 67 km/h. Il va donc officiellement à la vitesse d'un scooter des années 50 ou d'une deux chevaux qui peine à la monter. Et vous savez pourquoi ce cheval mythique est en quatrième place.
Grace has kept me far from your web. Oh, me, how I nearly was fooled. I thank my lucky stars that I'm far from your reach. Though your arms are long, my will is strong. Grace has kept me far from your will. I roam free in my garden instead. I thank my lucky stars, the little bird told me all the things I wouldn't have heard. Though my soul is free, your spirit haunts me. Grace has kept me far from your web. Oh, me, how I nearly was fooled. I thank my lucky stars that I'm far from your reach. Though your arms are long, my soul is free. Your spirit haunts me.
Leila Makkala sur la première, Far From Your Web, loin de ta toile d'araignée, ai-je envie de traduire. Vous écoutez Pantagruel, on ne parle pas d'araignée, mais on parle bien d'animaux aujourd'hui, puisque l'on découvre les 5 chevaux mythologiques et mythiques, les plus puissants, mais surtout les plus pratiques dans la vie de tous les jours. Pour l'instant, on a le choix entre un cheval démon écossais vaguement dressé et un cheval coréen présenté comme le cheval le plus rapide de tous les temps, qui fait vaguement du 60 km/h. Mais vous allez l'entendre, ça s'améliore.
Bring out your date.
Then shalt thou count to 3. No more, no less.
You fool. Me parler français. Bon. Je veux tout apprendre avec le français.
Ouais, mais il faudra faire un tri.
Amen.
Amen. Right. One, two, five.
Three, sir.
Three.
En troisième position, la licorne. La licorne est un animal légendaire particulièrement populaire au Moyen-Âge. On la trouve décrite à cette période comme une créature à corps de cheval ou de bouc, possédant des sabots fendus et une corne unique. Le site de la Bibliothèque nationale de France présente un bestiaire anglais du XIIIe siècle qui présente la licorne comme un animal paisible et doux, mais avec une force telle que les chasseurs ne peuvent l'approcher. Pour capturer une licorne, toujours selon cet ouvrage du XIIIe siècle, il faut utiliser une jeune fille vierge. À son contact, la licorne s'adoucit et vient poser sa tête dans le sein de cette jeune fille. Alors les chasseurs peuvent tuer l'animal dont la corne a des vertus magiques, notamment comme anti-poison. Au Moyen-Âge, la licorne symbolise la pureté et la chasteté. On la trouve dans l'art médiéval, comme par exemple dans cette fameuse tapisserie, la Dame à la licorne, qui date du XVe siècle. Alors la licorne, point positif, force exceptionnelle, éventuellement en dernier recours, vous la zigouillez, vous prenez sa corne et ça peut être utilisé pour des vertus thérapeutiques. on a bien dit en tout dernier recours, hein, désavantage de la licorne, uniquement accessible à une jeune fille vierge, sinon c'est un animal sanguinaire, selon des sources du Moyen-Âge. Et ce serait, selon certains livres, le seul animal qui ose s'attaquer à l'éléphant. Rendez-vous compte, hein, donc la licorne qui s'attaque à un éléphant, pour dire qu'elle ne craint absolument rien. Autre point négatif, selon les sources médiévales, son corps est, dans certains cas, celui d'un cheval, mais le plus souvent le corps d'une biquette, hein, et donc non d'un cheval, ce qui la disqualifie pour notre classement. On n'a toujours pas trouvé le cheval mythique ou mythologique le plus pratique dans la vie quotidienne en 2016. Mais ne désespérez pas, on va le trouver.
Tiens, un petit cadeau pour toi, mon pote.
Mais c'est pas Noël aujourd'hui.
De la corruption.
Tout de suite les grands mots, non, c'est pas de la corruption.
Mais non, c'est juste un petit deux.
En deuxième position, Pégase, cheval de la mythologie grecque. Pégase est monté par le héros Thésée. Pégase est un cheval ailé, il peut le voler. Pégase naît de la Méduse, au moment où Thésée tranche le cou du monstre. Le cheval en surgit de sa blessure. Méduse est une gorgone, c'est-à-dire un monstre qui peut changer en pierre de son regard. Pégase apparaît aussi dans le mythe de Bellérophon. C'est Athéna qui confie Pégase à ce héros de la mythologie grecque moins connu. Sur le dos de Pégase, Bellérophon terrasse la Chimère, un autre monstre qui lui crache du feu. Bellérophon, après plusieurs hauts faits, décide de voler jusqu'à l'Olympe sur le dos de Pégase. Mais Zeus envoie un temps piquer Pégase. Le héros tombe dans un buisson d'épines et devient aveugle. Pégase, selon l'Encyclopédie Universalis, a été durant l'Antiquité un des thèmes artistiques favoris. Victor Hugo le traitait, lui, comme symbole de l'inspiration poétique. Pégase est sans doute aujourd'hui le cheval mythique le plus utilisé comme symbole, logo ou pour son nom. Oui, les Pégases, on en trouve absolument partout, hein, rien qu'une petite recherche internet, on l'a vu dans plusieurs logos militaires, plusieurs corps de l'armée français qui s'appellent Pégase, c'est le nom aussi d'un groupe de rock, c'est le nom d'un personnage qui met une armure magique et qui lance ses météores un peu partout, c'est sans conteste en Europe le cheval mythique le plus connu, mais en termes de pure utilité... On vous rappelle que le prétexte de ce classement, c'est de trouver les chevaux mythiques les plus pratiques en 2016. Et bien, en termes de pure utilité et de puissance de ses pouvoirs, Pégase, c'est pas mal parce qu'il peut voler, mais c'est toujours pas le numéro 1 de notre classement. Vous allez voir, notre numéro 1 peut tout faire, peut-être même la vaisselle. On va découvrir qui c'est après avoir écouté ce groupe français qui est un groupe parodique, un groupe du début des années 90. Il s'appelait VRP et ce morceau s'appelle « Tout pour le fric ».
Pantagruel, 16h-16h30 sur la première.
Spéciale dédicace à tous les rappeurs de la terre. Comprennent qui doit ou qui peut. À tout cela je dis, à tout cela je dis. Je ne suis sur terre que pour un court instant, mais je vendrai ma mère pour gagner de l'argent. Je fais le mec méchant pour me faire remarquer. Les portes du showbiz sont faciles à percer. Ce qui est difficile, c'est que je ne suis pas le seul à profiter du rap, alors je boire ma gueule. Quand tous les batteurs tentent aux émissions pourries, au Téléthon, au Top 50, à c'est mon mardi. Et mon domaine, du moins pour cette année. Car dès l'année prochaine, la mode aura changé. Mais moi je serai là, je la suivrai le prêt. Il n'y a pas de loi quand on veut cartonner. Je ne suis pas de ceux que l'on peut acheter. Je suis rappeur dans l'âme, mais je dois t'avouer que si tu sors ton chéquier, il y aura sûrement moyen de s'arranger. Je ferai tout pour le fric. Tout pour le fric. Tout pour le fric. Je ferai tout pour le fric. Massif, massif. Voilà ce que je suis. Je suis le meilleur dans ma catégorie. Car j'ose, je mets la dose. Je m'impose dans le style et c'est l'overdose de mes pros. Je sens que j'explose, alors je prends la pause. Yo, break down à maman, écoutons la bassine. Yo! La bassine dans ta face. Pow, pow! La conclusion de tout ceci, je vous la donne. Si moi je fais du rap, c'est pour que ça cartonne. Je n'ai aucun scrupule, ni même de morale. Vous trouvez ça choquant, moi je trouve ça normal. Ce n'est pas facile d'être original, mais de ce côté-là, je ne m'en sors pas si mal. Je parle du crack, de mon niveau social. Je fais beaucoup d'efforts pour être si banal. Être rappeur, je ne suis qu'un rapace. Je suis un produit noyé dans la masse. À force de voir trop grand, on finit tout petit. Je retourne dans la rue car il est c'est ma vie. Tout pour le fric. Tout pour le fric. Tout pour le fric. Je ferai tout pour le fric. Breakdown. Tout pour le fric. Tout pour le fric. Je ferai tout pour le fric. Et bien plus encore. Tout pour le fric. Tout pour le fric.
Le groupe VRP, tout pour le fric sur la première. Nous ne faisons pas tout pour le fric à Pantagruel. Nous faisons tout pour la connaissance, pour la vérité et pour faire des classements intéressants pour l'humanité, comme aujourd'hui où l'on découvre les 5 chevaux mythiques et mythologiques qui seraient le plus pratiques dans la vie de tous les jours en 2016. Nous avons un numéro 1 et en plus le mieux c'est qu'il a 8 pattes.
Bah, ils font quoi là, toi ? Ben, à seule fin de satisfaire à un désir collectif, le héros met en sommeil ses états d'âme et élève son image au rang d'icône à jamais gravée dans les mémoires.
Possibilité, là il doit la mettre, hein. C'est dedans, c'est dedans.
Fini en beauté, amigo.
Qu'est-ce que ça va lui faire du bien ? Ah ouais ?
J'ai gagné !
En première position, Sleipnir, c'est la monture d'Odin, selon François Aimion, maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne. Lors d'une conférence à l'université de Caen, Sleipnir signifie « celui qui glisse ». Il possède 8 pattes et est la meilleure monture, le meilleur de tous les chevaux. Ses 8 pattes symbolisent sa rapidité, mais aussi le fait que ce cheval peut librement voyager entre le royaume des vivants et des morts. Même si cela est débattu, parmi les historiens, il est envisageable que le cheval ait eu une fonction symbolique de psychopompe dans la religion païenne nordique. Psychopompe, c'est-à-dire conducteur des âmes des morts. Sleipnir, le cheval, est le fils du dieu Loki et d'un étalon. Le dieu Loki, pourtant masculin, s'était effectivement changé en jument pour le concevoir. Toujours selon François Aimion, on trouve la trace de Sleipnir comme personnage secondaire dans la littérature islandaise médiévale du XIIIe siècle, mais on trouve des représentations plus anciennes, datant du 8e siècle, d'un cheval à 8 pattes. Alors Sleipnir, point positif, il vole, c'est le meilleur de tous les chevaux, il a 8 pattes, et ça quand même, si un jour on lui apprend les claquettes, imaginez le potentiel. Et il peut passer du royaume des vivants au royaume des morts, ça peut toujours être pratique, on sait jamais, vous voulez faire un gâteau au fromage, c'est votre arrière-grand-mère qui faisait les meilleurs gâteaux au fromage du monde, paf, vous allez aux enfers avec votre cheval lui demander de la recette du gâteau au fromage. Où votre arrière-grand-mère est en train de tricoter et elle vous donne volontiers la recette. Point négatif, il y en a quand même un, c'est le fils du dieu Loki. Loki qui, dans la mythologie nordique, est un mauvais dieu. Hein. C'est un dieu fourbe, c'est le dieu de la discorde, c'est le genre de dieu qui, par impulsivité et jalousie, met tout le monde dans des situations pas possibles, le genre de dieu qui, le samedi soir, quand personne regarde, se change en jument pour se faire féconder par un étalon. Alors on ne juge pas, tant que tout le monde est consentant, on ne juge pas. Loki qui a aussi donné naissance à d'autres monstres hein, dans la mythologie toujours nordique et qui, dans cette mythologie, entraîne à la fin des temps les géants dans la bataille finale contre les dieux. Bataille finale appelée Ragnarok, qui est donc un dieu qui se déguise aussi en jument. Mais une fois de plus, on ne juge pas tant que tout le monde est consentant. Pantagruel, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Jean-Claude Gailly à la technique. Merci à Nicole Fontana pour les recherches. Jean-Baptiste Roumens pour le choix des chansons. On se retrouve bien sûr lundi dès 16h pour un nouveau classement. Et on va parler foot. On est désolé, mais il y aura une seule émission sur le foot. On vous promet, ce sera la seule. D'ici là, on vous souhaite à tous un très beau week-end. À l'écoute de la première.
Infotrafic, RTS.
Des bouchons, des ralentissements sont signalés sur les tronçons suivants. Sur l'axe Lausanne-Valorbe, entre Balègue et la douane de Valorbe, en direction de la France. Sur l'axe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, entre Boutevilliers, le tunnel de la Vue des Alpes, en direction de La Chaux-de-Fonds. Sur le contournement de Genève, entre Mérin et le tunnel de Vernier, ainsi qu'entre l'échangeur de Perly et la douane de Bardonnay, en direction de la France. Et enfin, dans la région de Montreux, la circulation est difficile entre Territet et Clarens, ainsi que sur l'avenue de Belmont à Montreux, en raison de l'afflux nombreux à la fête fédérale de musique.
Avant de partir sur les plages ensoleillées, venez assister aux envolées lyriques et estivales des Dicodeurs. Mélanie Chapuis, Lisa Mazone, Isabelle Moncada, Isabelle Emeneger, Philippa de Rotten. Les Dicodeurs enregistrent leurs émissions d'été en leur compagnie les 16, 21, 22, 27 et 28 juin des 13h au studio 15 de la RTS à Lausanne. L'entrée est libre, mais les réservations obligatoires au 058 236 18 58.
16h30, c'est Vertigo avec vous, Christine Gonzalez. Bonjour.
Bonjour Lucas, je vous écoute attentivement, vous faites ça tellement bien, les inforoutes. Et...
Ah, c'est un métier.
Hein. Oui, c'est un métier. D'ailleurs, l'écriture aussi d'inforoutes, la circulation est difficile entre oui. Territet et Clarens. Est-ce qu'une circulation est vraiment difficile ? La vie est difficile, mais est-ce que la circulation est difficile ?
C'est vrai. Et moi, mon préféré, c'est quand on roule en accordéon sur
l'autoroute. Ah oui.
Parce qu'évidemment, oui. En voiture, ça irait mieux.
Oui.
Mais après, il y a des gens qui préfèrent prendre leur accordéon pour aller au travail. Oui. Ça, c'est chacun fait comme
chacun
il veut.
Chacun fait, surtout avec les moyens qu'il a.
Mais c'est un style, hein. Vous savez, faut pas se moquer. C'est le style infotrafic RTS.
Oui.
Et je pense que, comme le français fédéral, il faut se battre.
Oui.
Et il faut sortir un dictionnaire, je pense. Un dictionnaire français infotrafic.
Oui.
Comme ça, les gens peuvent
c'est
comprendre.
C'est vrai. Comme ça, on déploie notre vocabulaire.
Voilà, on s'y met les deux.
On fait ça tout à l'heure.
Ça marche. Belle émission.